Et le journal, c'est avec vous, Mathieu Laurent. Bonsoir, Mathieu.
Bonsoir, Julie, et bonsoir à tous. Nous nous poserons, nous, la question de l'avenir politique de l'Autriche. Après la démission du vice-chancelier et leader du FPE, est-ce la fin de la coalition droite-extrême droite? Et plus largement, quels impacts sur de tels attelages en Europe? Invité de cette édition, Bertrand Badi, spécialiste des questions internationales. Également au sommaire, 19 blessés en Égypte après l'explosion d'une charge destinée à un autocar de touristes non loin de la pyramide de Gizeh. Enfin, ces nouveaux recours que promettent les parents de Vincent Lambert après que l'État a décidé d'engager un processus de sédation profonde et continue. Explication de Lara Mercier. Mais tout d'abord, un regard sur le calendrier. Avant toute autre chose, le calendrier algérien. 22 février, 19 mai, près de 3 mois après le premier élan citoyen qui a conduit des centaines de milliers d'Algériens dans la rue. Étudiants et enseignants ont défilé ce dimanche à Alger. Des étudiants qui avaient jusqu'alors pris l'habitude de se rassembler le mardi, mais ce 19 mai est un anniversaire qui compte. Le 19 mai 1956, la jeunesse algérienne se ralliait aux combattants de l'indépendance. Relevons enfin que ce 19 mai 2019, expire le délai imparti aux candidates et candidats à la présidentielle du 4 juillet, programmé par ce qu'il reste du régime. Eh bien, à cette heure, aucun parti n'est en lice. Un site touristique égyptien a pris pour cible cet après-midi une charge visant un autocar à exploser à proximité du grand musée égyptien, près du site des pyramides de Gizeh. 19 blessés selon un dernier bilan. Le Caire, Martin Roux.
Autour de 15h, une bombe improvisée de faible intensité a explosé au passage d'un bus de touristes sud-africains. Les secours ont rapidement pris en charge les blessés. Cette attaque intervient à peine 6 mois après un attentat similaire aussi à proximité des pyramides. Au mois de décembre, un bus de touristes vietnamiens était alors visé. Bilan 4 morts et 12 blessés. Dès le lendemain, des raids des forces de sécurité avaient permis de tuer 40 terroristes selon le ministère de l'Intérieur égyptien. Ces chiffres sont toutefois impossibles à vérifier et la stratégie égyptienne contre les groupes terroristes est critiqué. En effet, l'insurrection se poursuit dans le désert du Sinaï et des attaques ont toujours lieu à travers le pays. Elles visent principalement les forces de sécurité et les coptes. Les attentats contre les touristes sont plus rares mais très difficiles à encaisser pour le secteur touristique vital pour le pays. L'attentat de cet après-midi sur le site emblématique des pyramides est donc très mauvais signe. L'industrie du tourisme redémarre depuis à peine plus d'un an. Cet attentat tombe aussi au plus mal. L'Égypte se prépare à recevoir des milliers de visiteurs pour la Coupe d'Afrique des Nations au mois de juin.
L'empressement du président autrichien Alexander Van der Bellen, impatient d'en être à ses élections anticipées, convoqué hier dans la foulée de la démission du vice-chancelier Heinz Christian Strache, mis en cause par une vidéo dans laquelle il propose à la nièce d'un oligarque russe des marchés publics en l'échange d'un financement du FPE, la coalition autrichienne est à terre. Bonsoir Isorias.
Bonsoir.
Vous êtes en direct de Vienne. Genug ist genug. Trop c'est trop a fini par lâcher le chancelier Sébastien Kurz.
Oui, cette phrase du chancelier s'affiche en une des quotidiens autrichiens aujourd'hui, car elle résume assez bien la situation. Cette vidéo très compromettante pour le FPE a été le scandale de trop pour le chancelier, soucieux de son image à l'étranger. Il a d'ailleurs hier soir énuméré les affaires qui ont embarrassé le FPE récemment pour mieux s'en distancier. Il a par exemple rappelé les liens du parti avec la mouvance identitaire ou bien encore la rédaction par un élu d'un poème comparant les migrants à des rats. Sébastien Kurz, que l'opposition surnommait ces deux dernières années le chancelier silencieux, a voulu montrer qu'il réagissait fermement. Son discours était assez clair, déjà tourné vers les prochaines échéances électorales. La politique menée est la bonne, mais les excès du FPE empêchent la poursuite de la coalition.
Et Isor, il semble aussi que ce soit le cas du ministre FPE de l'Intérieur, Herbert Kickl, qui ait précipité la chute de la coalition.
Oui, en effet, selon la presse autrichienne, Sébastien Kurz était bel et bien prêt à poursuivre cette coalition si les conservateurs récupéraient le ministère de l'Intérieur. Ce n'est pas anodin car ces derniers mois, l'opposition s'inquiétait fortement du fait que les services de renseignement autrichiens dépendent d'Herbert Kickl, sans nul doute le ministre le plus controversé du gouvernement. Mais l'extrême droite aurait refusé cette injonction de Sébastien Kurz, actant ainsi la fin de la coalition.
Merci à vous, Isorias, en direct de Vienne. Bonsoir Bertrand Badi.
Bonsoir.
Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes spécialiste des questions internationales, professeur à Sciences Po et l'auteur, le co-auteur, le co-directeur, devrais-je dire, de l'ouvrage suivant, Le retour des populismes, l'état du monde 2019 aux éditions de la Découverte, ouvrage que vous avez co-dirigé avec Dominique Vidal. Bertrand Badi, cette expérience de gouvernement qui a échoué en Autriche peut-elle avoir des répercussions sur des attelages droite, extrême droite, à l'état de germe ou en état de marche en Europe ?
Oui, sans aucun doute. Et d'ailleurs, on a déjà des répliques, notamment en Italie, où les relations entre le mouvement 5 étoiles et la Ligue sont de plus en plus tendues. Fondamentalement, ce qui caractérise ces partis populistes et néo-nationalistes, c'est une stratégie d'affichage. Le besoin de se montrer, le besoin de s'affirmer, le besoin également de déployer des symboles pour marquer justement cette différence par rapport aux autres partis politiques. Ce qui rend la tâche des alliés extrêmement difficile, les met en situation d'être marginalisés. On voit bien en Italie, M. Salvini semble être le véritable président du Conseil, alors que ce n'est pas le cas, et la pression sur M. Kunz en Autriche était de plus en plus forte dans la mesure où son allié occupait beaucoup de place et une place controversée. Donc c'est peut-être une étape dans ces processus que nous observons aujourd'hui, c'est-à-dire la démonstration que ces partis arrivant au pouvoir sont obligés de se laisser aller à une surenchère et que cette surenchère est de plus en plus gênante pour les alliés.
À cet égard, vous dites surenchère, existe-t-il un seuil de tolérance informelle aux discours et postures radicales extrémistes ?
Oui, parce que nous sommes dans l'Union européenne et effectivement, la tâche d'un chef de gouvernement qui participe au Conseil européen, c'est de montrer un minimum de convergence avec les autres gouvernements de la même Union, ou alors prendre le risque de vouloir en sortir, ce qui n'est d'ailleurs plus le cas aujourd'hui. Et donc, dans cette volonté de coexister avec des gouvernements d'une autre nature, il y a des lignes à ne pas franchir. Ce que votre correspondante expliquait à propos de l'Autriche et de son ministre de l'Intérieur est tout à fait significatif, puisqu'il y avait des rumeurs, mais probablement plus que des rumeurs, faisant valoir que le gouvernement allemand ne voulait plus coopérer avec les services de renseignement autrichiens parce qu'ils avaient des doutes sur la manière dont ces renseignements étaient gérés et peut-être étaient transmis à la Russie, à Moscou, ce qui, effectivement, dans un contexte européen, pose pour le moins problème.
Et c'est vrai que ce sont deux journaux allemands, Der Spiegel et Der Süddeutsche Zeitung, qui ont révélé cette fameuse vidéo qui a précipité la chute de la coalition autrichienne. Mais Bertrand Badi, quelle perception ces agissements de vecteurs trumpistes et poutiniens, parce que c'est ça finalement, c'est la Russie, et les liens présumés de M. Strache avec la Russie qui ont été déterminants, mais comment c'est perçu ? Comme un complot, un danger permanent, une désinformation attribuée aux partis de gouvernement ?
Alors, il y a plusieurs éléments qui jouent. Il y a d'abord une convergence entre, effectivement, des affirmations nationalistes, Trump aux États-Unis, Poutine en Russie, Netanyahou en Israël, Netanyahou très proche d'Orban, qui pourtant est plus ou moins suspect d'antisémitisme, ou encore même Erdogan en Turquie. Donc, tous ces leaders parlent le même langage, sont en mesure de se comprendre et surtout sont en mesure de jouer la complémentarité. Poutine en Russie ne souhaite pas une Union européenne fortement intégrée et donc aime jouer de cette fibre nationaliste de certains gouvernements européens pour pouvoir en quelque sorte freiner, voire bloquer le processus d'intégration européenne qui d'ailleurs est fort mal en point. Donc il y a des échanges de bons procédés, la même chose se retrouvant également côté américain. Tout ceci crée des phénomènes de synergie et souvent d'échanges assez étonnant. Orban est un nationaliste, Orban s'est affirmé contre le système soviétique politique et ses avatars. En même temps, Orban a une certaine affinité avec Vladimir Poutine. C'est souvent difficile à suivre tout cela, mais ce sont des enchevêtrements qui effectivement créent des effets de système et qui expliquent la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Les liens entre le Rassemblement national et la Russie sont également souvent discutés.
Et bien, justement, j'allais y venir, pardon de vous couper la parole car le temps presse, Bertrand Badie. Oui. En France, et vous n'ignorez pas évidemment, la campagne de la majorité présidentielle se concentre sur le Rassemblement national. En témoigne encore cet extrait de l'intervention du ministre de l'économie Bruno Le Maire, qui a participé, comme bien d'autres figures de la majorité, à un Facebook Live aujourd'hui pour le compte de La République En Marche.
Je suis inquiet de la situation européenne parce que je pense que pour la première fois depuis 1957, le projet européen peut disparaître. Et que d'ailleurs, c'est l'ambition des nationalistes qui montent partout en Europe, faire disparaître le projet européen. L'heure est grave et on ne peut pas ne pas se démultiplier dans cette situation-là pour essayer de convaincre chaque électeur de se déplacer le 26 mai.
Dernier volet de notre échange, Bertrand Badie, et rapidement, pardonnez-moi, mais la nation, elle est soit obsolète, soit éternelle. C'est ça que nous dit en sous-texte Monsieur Le Maire.
Oui, en fait, nous sommes dans un contexte qui est celui de la mondialisation et qui est celui de difficultés économiques et politiques de ces États européens qui avaient une longue expérience de l'hégémonie. Et donc, il y a une peur qui s'empare des opinions publiques, qui s'empare de différents secteurs de cette opinion. Et ce nationalisme est en quelque sorte vendu comme étant un moyen de d'équilibrer cette peur. Vous avez peur de la mondialisation, c'est la nation qui va offrir une solution. Faut faire très attention, ce n'est plus la nation du 19e siècle, ce n'est plus la nation émancipatrice, ce n'est même plus la nation souveraine au sens classique du terme, puisque dans un monde mondialisé, par définition, la souveraineté doit faire avec l'interdépendance propre aux logiques de mondialisation. Donc c'est plus
d'un dernier mot,
de
oui.
symbole d'identité, en quelque sorte le repli identitaire est vendu comme une assurance face à ces incertitudes et à ces craintes. On en est là actuellement. Ce n'est plus la nation au sens classique du terme, c'est la nation comme moyen, en quelque sorte, de contrebalancer cette peur que l'on attise en même temps chez les électeurs. Et c'est peut-être cela qui explique ces phénomènes et ces dynamiques aujourd'hui.
Merci à vous. Merci infiniment, Bertrand Badie, d'avoir accepté notre invitation. La vie pour Vincent, slogan scandé par des dizaines de fervents catholiques venus soutenir devant un hôpital de Reims. Les parents de Vincent Lambert en état végétatif depuis 2008. Des parents qui s'opposent depuis des années à l'arrêt des traitements, non sans multiplier démarches et recours, jusqu'à ce solliciter un comité consultatif des Nations Unies. Ils promettent de surcroît de nouveaux recours dès demain. Le gouvernement, conformément aux recommandations de l'équipe médicale qui entoure Vincent Lambert, a donné son aval à un processus de sédation profonde et continue jusqu'au décès. Bonsoir Lara Mercier.
Bonsoir Mathieu.
Lara, le cas Vincent Lambert convoque la justice, la médecine, la classe politique et l'Église et il ne semble toujours pas prêt de se résoudre.
Oui, alors que l'on pensait s'approcher de l'épilogue de cette affaire, les choses ne seront probablement pas aussi simples. Même si tous les recours possibles, vous l'avez dit, sur le plan juridique et sur le plan médical ont été épuisés, comme on pouvait s'y attendre, les parents de Vincent Lambert sont bien décidés à poursuivre leur combat. Viviane Lambert, sa mère, s'est exprimée cet après-midi au micro de nos confrères de France Info.
Ils sont en train de le tuer. C'est de l'euthanasie déguisée. Mais Vincent vivra, j'en suis sûre. Je suis sa maman. J'ai le droit à le défendre. J'ai le droit.
Il y a de nouveaux recours engagés, madame ?
Oui, il y a des recours. Plein de recours. Demain, tout va tomber. Tout va tomber demain. Vincent doit vivre. C'est un handicapé, c'est tout. Un handicapé, on va détruire tous les handicapés. C'est pas possible. C'est au nom du président de la République. Il peut faire quelque chose. Voilà, il peut faire quelque chose.
Un appel, une émotion qui risque de complexifier encore la situation dans un contexte où les imprécisions de la loi Claeys-Leonetti ne satisfont personne. Jonathan Denis, secrétaire général de l'Association pour le droit de mourir dans la dignité.
Moi, je ne vais pas juger personnellement ce que fait la maman de Vincent Lambert ou les manifestations, etc. C'est son droit. Moi, je pointe que la loi, elle est mauvaise. Si on est dans cette situation-là, c'est que la loi, elle est mauvaise, c'est que la loi, elle n'est pas complète. Et on doit encore faire face à des lobbies religieux qui n'ont absolument rien à faire dans le débat.
La question semble désormais politique, mais les responsables sont pour l'instant réticents à s'exprimer sur un dossier aussi sensible. Seul François-Xavier Bellamy, tête de liste Les Républicains aux élections européennes, a appelé à laisser du temps avant de prendre une quelconque décision.
Merci à vous, Lara Mercier. Quelques mots de météo pour refermer cette édition. Temps encore instable demain avec des averses localement orageuses. Cette édition a été présentée par moi-même et préparée avec Caroline Benetto.
Par vous, Mathieu Laurent.